selon Hubert Védrine.
Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
Dans votre dernier livre, Le Monde au défi, vous défendez notamment l'idée selon laquelle l'écologie pourrait permettre à la communauté internationale de retrouver une certaine cohésion. Expliquez-nous pourquoi.
Ce livre part d'une question que me posait Claude Durand, qui est aujourd'hui décédé, mais qui était le patron de Fayard, le grand éditeur, qui me disait « Pourquoi vous dites tout le temps qu'il n'y a pas encore de communauté internationale ?» Vous devriez expliquer cette idée. Et donc, puisque les valeurs occidentales universelles n'ont pas suffi à créer cette cohésion partout, puisque l'économie globale de marché a beaucoup enrichi, mais beaucoup perturbé, et que donc on n'arrive pas à une cohésion, en tout cas entre les peuples, je me suis dit une chose tout à fait simple, mais en même temps très compliquée, en disant, mais est-ce que le seul lien entre tous les peuples du monde, quel qu'il soit, vous voyez, un ingénieur portugais, un ouvrier chinois, un professeur canadien, etc. Bon. Est-ce que le seul lien entre tous les peuples du monde, c'est pas simplement que la planète demeure vivable? Pas sauver la planète, comme on dit dans les slogans, parce qu'il peut y avoir des planètes sans vie, mais de la vie sur la planète. Alors ça paraît un peu, et puis les gens m'attendent pas sur ce terrain, donc ça crée une surprise. Pourquoi dire ça? Eh bien, quand on fréquente les milieux scientifiques, pas uniquement sur l'affaire du climat, mais si vous additionnez climat, biodiversité, pollution, nuisance, artificialisation des sols, etc., et démographie, multiplié par démographie, il y a toute une communauté, pour le coup, scientifique mondiale qui considère que c'est absolument impossible que la vie soit compatible avec 7, 8, 9 milliards de gens vivant, disons, à l'américaine comme aujourd'hui. Impossible. C'est à la fois évident et pas évident, parce qu'une fois qu'on a dit ça, c'est tellement géant, c'est tellement inquiétant qu'on ne franchit pas le saut. Et donc moi je mets en avant l'idée que le seul vrai lien, c'est peut-être celui-là, à condition de le faire apparaître, de l'expliciter. Ce qui a commencé sérieusement dans l'affaire du climat, la France a fait un travail magnifique, et notamment Fabius et Laurence Toubiana dans l'affaire de la COP21, bon, mais il y a la mise en œuvre, c'est pas évident. Après, ça dépend du rapport de force dans chaque pays, est-ce qu'on applique ou pas. Et il y a tous les autres domaines dont j'ai parlé. Alors, je cite des penseurs, je cite des précurseurs, je cite des intellectuels, je cite des gens simples, des connaisseurs de la nature, tout ça qui vont dans ce sens, mais il faut le construire. Mais dès qu'on vient sur ce terrain de l'écologie, en général, il y a une sorte d'opposition frontale, absolue, entre ceux qui veulent vraiment interrompre les activités polluantes ou faire la décroissance, et puis les gens, quoi. Les gens, les producteurs, les paysans, les industriels, qui disent non, c'est pas, non, c'est frontalement incompatible.
Et puis on se dit effectivement, Hubert Védrine, que vis-à-vis de l'écologie, tous les peuples, ou en tout cas tous les pays, n'ont pas forcément les mêmes intérêts, ou en tout cas les mêmes priorités. Qu'est-ce que vous rétorquez à cela ?
Alors, je rétorque à cela que dans tous les pays du monde, même ceux qui sont dans des situations épouvantables, vous trouvez partout des gens, des groupes, des individus, des ONG, même dans des pays pauvres, hein, des entrepreneurs, des inventeurs qui disent non, ils sont conscients de ça et ils mettent en avant des comportements nouveaux, des inventions, il y a des bons, il y a des sursauts. Et ce que je propose, moi, c'est qu'on raisonne en termes, non pas pour ou contre l'écologie, sinon on retombe dans les positions des écologistes politiques qui stagnent, parce qu'en plus ils ont mélangé ça avec du gauchisme sociétal, donc ils entraînent peu de gens. En réalité, ils ont un peu raté leur coup, alors qu'ils devraient avoir 50% des gens derrière eux. Je propose qu'on parle d'écologisation, comme il y a eu l'industrialisation, c'est-à-dire des phénomènes qui se poursuivent sur des décennies. Elles sont là ce qui est aujourd'hui incompatible, paraît soluble. Grâce à l'évolution des mentalités, à des lois ou des règlements incitatifs, Ségolène Royal a raison de dire qu'il ne faut pas que ça soit punitif, et puis des découvertes scientifiques, technologiques sur tous les plans. En matière de photovoltaïque, il y a encore, ou en matière de solaire, il y a des révolutions énormes devant nous. En matière de remplacement des molécules chimiques les plus dangereuses par d'autres, il y a des progrès absolument constants dans tous les domaines. Donc si vous raisonnez là-dessus, l'agriculture, l'industrie, les transports, la construction, etc. peuvent être écologisés plus ou moins vite selon les pays. Mais c'est pas forcément nous qui sommes en tête, hein. Il y a des pays émergents qui vont nous surprendre parce qu'ils vont faire des bons par rapport à plusieurs générations de technologies tout à fait polluantes. Donc, et alors, le monde économique, fin de la réponse à votre question, le monde économique, manifestement, a commencé à comprendre ça. Donc, il y a par exemple des fonds de pension, le norvégien par exemple, qui se retire progressivement du charbon, vous voyez. Donc, il y a un mouvement qui se dégage, qui vient pas du monde intellectuel, hein, qui va venir du monde économique et financier.
Ce que l'on pourrait dire contre votre néologisme, l'écologisation, c'est qu'il est rare que les politiques fassent de la politique au futur.
Oui, c'est vrai. D'où l'idée que je cite, qui était l'idée de Robert Lyon, de Dominique Bourg, de Nicolas Hulot, et reprise par Jacques Attali dans un de ses livres, c'est une chambre des générations futures qui serait une chambre qui remplacerait peut-être d'autres chambres qui n'ont plus raison d'être, et qui indiquerait sur chaque mesure, est-ce qu'elle va dans le bon ou dans le mauvais sens, pour indiquer, pour orienter. Mais de toute façon, les politiques seront orientées par la nécessité. Si les Chinois annoncent la fermeture de milliers de mines ou de centrales à charbon, c'est pas par philanthropie, c'est pas pour faire plaisir à la diplomatie française, etc. Vous voyez ? Donc je pense que ça va aller dans ce sens, et que si c'est explicité, assumé et organisé, il y a un vaste mouvement qui peut créer, à la longue, une conscience collective qui fait encore aujourd'hui défaut. Je tente cette idée.